Voix Nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Evelyne Ayer, professeure en anthropologie génétique.
Quatrième épisode, un musée de l'homme contre le racisme. Bonsoir Evelyne Ayer.
Bonsoir.
Hier, nous avons parlé de la formidable épopée de l'homme avec un grand H et ce qui fait sa singularité. Nous nous sommes demandé qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Eh bien, ces trois questions forment les trois temps du parcours du nouveau musée de l'homme dont vous avez été la commissaire générale scientifique entre 2009 et 2015. Ça sera le début de notre sujet d'aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que le musée de l'homme ? Peut-être faut-il commencer par là. Et quelle est son histoire ? Elle remonte aux années 30, je crois.
Oui, tout à fait. Le musée de l'homme a été créé, je crois, de mémoire en 37 par Paul Rivet. Et l'idée du musée de l'homme, c'est vraiment de présenter l'homme dans sa diversité en regroupant en fait trois grandes disciplines, la préhistoire, l'ethnologie et l'anthropologie biologique. Et quand il a été créé, il était très original, et d'ailleurs il l'est resté, c'est ce qu'on appelle un musée-laboratoire. C'est-à-dire c'est un musée où il y a bien sûr la présentation au public, des collections, mais aussi de la recherche qui s'y fait. Et donc ce musée, en 2009, il a failli disparaître parce que il y a eu le musée du Quai Branly qui a été créé par Jacques Chirac et qui a intégré quasiment toutes les collections d'ethnologie du musée de l'homme. Et du coup, s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a encore la place pour un musée de l'homme ? Oui ou non ? Et surtout, qu'est-ce qu'on va mettre
dans ce...
qu'est-ce qu'on met dans ce musée ? Et donc, c'est très intéressant comme construction d'un musée parce que on est parti non pas des objets et des collections, mais on est parti des questions scientifiques. On s'est réunis à une cinquantaine de scientifiques pour voir quelles étaient finalement les nouvelles grandes questions autour de ce qu'est l'humain et de les décliner dans un parcours de musée avec bien sûr le souhait aussi de montrer des très belles pièces parce qu'il y a des très très beaux objets au musée de l'homme. Et c'est comme ça qu'on a débouché sur finalement les trois temps du musée de l'homme. Qui sommes-nous ? Donc on montre comment l'homme est à la fois biologique et culturel. On le replace dans l'histoire naturelle du vivant, c'est-à-dire on remet l'homme dans la nature et en même temps on explique en fait l'importance de la culture chez l'homme. Après, il y a une autre partie qui est d'où venons-nous ? Donc là, c'est une partie très préhistoire, je dirais, des premiers humains, il y a environ 7 millions d'années, jusqu'à nos jours, avec une grosse partie sur ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire le moment où l'homme se met à domestiquer la nature. Et on finit le musée par où allons-nous ? Où on aborde des questions autour de l'évolution de la diversité culturelle. Est-ce que dans le cadre de la globalisation, elle va disparaître ou non ? L'impact de l'homme sur la planète et un peu l'homme du futur.
Comment vous êtes-vous, vous, retrouvé à la tête de cette rénovation, chef d'orchestre en quelque sorte ?
En fait, j'étais déjà très très impliquée dans la rénovation, ne serait-ce que du bâtiment qui avait commencé dès 2005, en ayant comme souci de vraiment garder cette idée de musée-laboratoire et qu'il y ait de la place pour les chercheurs, les plateaux techniques, etc. Et après, on s'est réunis à plusieurs scientifiques et on s'est rendu compte qu'il fallait un chef d'orchestre. Et il se trouve que je vous ai déjà un peu parlé de ce que je fais. Donc, sans connaître tout, je maîtrise quand même beaucoup de concepts, que ça soit en ethnologie, en préhistoire ou en anthropologie. Donc, ça a été un peu naturel, quoi.
Peut-être moins, Evelyne Ayer, en termes de scénographie et de muséographie, qu'il a bien fallu aussi penser, concevoir, donc avec des scénographes, avec un muséographe.
Oui, alors il y a une super scénographe qui s'appelle Z. Casalas, qui a fait des objets muséographiques absolument extraordinaires. Et il y a une muséographe du muséum qui s'appelle Agnès Parent. Donc on a travaillé finalement beaucoup toutes les trois. Et c'est extraordinaire
oui,
de faire un musée.
Plu. Cette expérience vous a plu ?
Énormément. Franchement, parce que d'abord, au départ, on veut tout mettre et puis après, il faut trier. Donc, il faut demander à chaque scientifique, mais c'est quoi les trois grands points que tu veux mettre, que tu veux que le public comprenne ? Il faut simplifier tout en restant exact. Et donc, c'est vraiment un exercice que j'ai adoré, qui m'a vraiment amené après vers la diffusion des sciences.
Quelle a été pour vous la plus grande difficulté ?
Alors, il y a
choisir eu... des œuvres, réfléchir au concept, synthétiser, c'était quoi?
Alors, il y a eu des soucis, c'était vraiment d'arriver à simplifier et à synthétiser, parce que finalement, chaque chercheur...
Ce qu'on fait au cours de ces cinq émissions,
voilà,
on
c'est
fait
ça.
Des millions d'années. Quoi.
On fait des millions d'années, et puis chaque chercheur voit bien à chaque fois qu'il assène, je dirais, une grande pensée, une grande vérité, qu'il y a toujours des exceptions. Et donc, mais d'un autre côté, il faut déjà présenter, je dirais, les grandes lignes avant de travailler les exceptions. Et donc, c'est pas une posture habituelle pour un chercheur qui va plutôt voir les exceptions et travailler là-dessus pour voir si, du coup, il faut pas changer le concept. S'il y a trop d'exceptions, ça veut dire qu'il faut changer le concept.
Et qu'est-ce qu'on montre?
Alors,
les objets qu'on voit.
Ah ben, on montre au début des très beaux objets qui montrent, par exemple, des crânes surmodelés. Des crânes modelés, vous savez, à la naissance, vous pouvez changer la forme des crânes, par exemple en enrobant les enfants ou des choses comme ça. Et donc, c'est un exemple fort de l'inscription du culturel dans le biologique. Donc, il y a par exemple des exemples comme ça, mais aussi des très beaux apparats. Après, on a un mur des langues extraordinaire où on montre qu'il y a 6-7 000 langues parlées sur la planète et on explique comment les langues évoluent, si elles disparaissent. Et puis, il y a une envolée des bustes qui sont des moulages qui ont été faits sur des gens vivant au cours des grandes expéditions scientifiques du 19e siècle qui représentent un peu la diversité des humains. Après, on a des originaux dans la partie d'où venons-nous qui sont... On a l'homme de Cro-Magnon, en vrai. On a des Néandertaliens, en vrai. Et puis, dans l'aspect plus du futur, on a fait faire un magnifique car rapide au Sénégal qui a été fait pour le Musée de l'Homme et qui montre en fait comment ces cars qui ont été produits en Europe sont réappropriés au Sénégal pour en faire quelque chose de complètement différent. Et donc, ça montre comment des éléments de globalisation sont retravaillés en local pour en faire autre chose. Puis il y a plein d'autres choses, mais voilà, ça c'est ce que j'aime beaucoup.
Est-ce qu'il a un message, le Musée de l'Homme, à transmettre?
Le message du Musée de l'Homme, c'est vraiment un message humaniste. Hein. On est dans la tradition humaniste. Donc, c'est de rappeler à la fois l'unité et la diversité des humains. Donc, en même temps, ce qui fait que nous sommes des humains, mais en même temps, comment une diversité se décline, qu'elle soit biologique et culturelle, sur l'ensemble de la planète.
Vous n'avez pas eu envie de le renommer, de l'appeler le Musée de l'Humanité plutôt que le Musée de l'Homme?
Ah, ça a été la première question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on va changer Musée de l'Homme pour Musée de l'Humanité et ou Musée de l'Humain? Et en fait, il se trouve que le Musée de l'Homme a une histoire et qu'il est connu dans le monde entier avec ce nom Musée de l'Homme, et on n'a pas voulu prendre le risque de changer son nom. C'est peut-être un tort, hein. Peut-être qu'il faudra le faire dans le futur, mais en tous les cas, quand on en a parlé, donc c'était quand même plutôt en 2005, à ce moment-là, on a trouvé que la marque Musée de l'Homme était tellement importante qu'il fallait garder ce nom-là.
Alors en 2017, c'était la première exposition qui inaugurait le nouveau musée. C'était la première exposition.
Oui,
l'exposition s'intitulait « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». C'est l'exposition que vous avez pensée.
Oui, parce qu'on s'est dit, bon, ben voilà, on va réinscrire le Musée de l'Homme dans les musées parisiens. Et c'est quoi, entre guillemets, l'ADN du Musée de l'Homme? Eh ben, c'est bien cette lutte contre le racisme qui a été déjà, dès sa naissance, dans les années 30, le Musée de l'Homme s'était positionné très fort contre l'antisémitisme. Et il se trouve que sur la question du racisme, il y avait beaucoup de nouveautés en termes scientifiques. Et donc, l'idée, c'était de faire une exposition, non pas militante, mais une exposition scientifique qui présente qu'est-ce que le racisme, comment ça marche, quelles en sont les conséquences. Donc, de trouver un angle d'attaque vraiment le plus scientifique possible, décrypter ce que c'est, parce que le racisme, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui vit souvent dans le monde entier, qui voit beaucoup de diversité humaine, c'est quelque part une incompréhension, quoi. C'est quoi cette idée d'imaginer qu'on connaît tout d'un individu, par exemple en fonction de sa couleur de peau, et qu'on va le considérer comme inférieur à nous? Et donc l'idée, c'était vraiment de travailler ça.
C'est une question qui vous taraude. Il y a beaucoup d'interrogations sur le racisme et de questions scientifiques que vous posez dans vos livres. Je pense à « On vient vraiment tous d'Afrique ?», point d'interrogation, à « Comment devient-on raciste ?». Même dans « L'Odyssée des gènes » et « La vie secrète des gènes », il est question du racisme à un moment. C'est quelque chose... pour vous, à titre personnel et à titre de chercheuse?
Alors, à titre personnel, oui, parce que je comprends pas. Je veux dire, c'est vraiment, comme je le dis, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais je dis, c'est quand même une des plus grosses fake news qui existe depuis 200 ans, quoi. D'imaginer que les gens sont plus ou moins supérieurs selon leur couleur de peau, leur origine supposée. Donc, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment s'est construite cette pensée pour arriver à la détricoter, donc d'un point de vue individuel. Et après, moi, ça m'a posé beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que la génétique et la connaissance de la diversité humaine pouvaient apporter ou pas, je dirais, à cette compréhension du racisme. Je dirais que la lutte contre le racisme des années 80 était en gros de dire qu'on était tous pareils. Effectivement, il y a peu de différences génétiques entre deux humains. Mais on voit bien que ça marche pas, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences d'apparence. On la voit, cette diversité humaine. Donc l'idée, c'était de voir comment on peut réfléchir à ce qu'amène la génétique ou pas sur cette question. Et ce que la génétique nous dit, c'est qu'effectivement, il y a peu de différences entre les groupes humains, mais qu'il y a quand même des différences qui existent. Et en fait, je pense que c'est pas la génétique, elle décrit la diversité. Mais le racisme, c'est une position morale sur cette diversité. Vous pouvez dire à quelqu'un, il y a peu de différences entre les populations humaines, et quelqu'un qui a une pensée raciste va lui dire, oui, mais moi, ça me suffit pour penser cette différence en termes de hiérarchie. Donc on voit que la science, elle amène des éléments, mais après le racisme, c'est vraiment ce qu'on fait de cette diversité. Qu'est-ce qu'on en fait? On considère que des différences entraînent des inégalités ou pas. Et la génétique, elle dit juste qu'il y a des différences.
Que dit précisément l'anthropologie génétique sur les races, entre guillemets?
Alors l'anthropologie génétique, elle dit, un, on vient tous d'Afrique. Donc c'est bien de le rappeler. Elle dit, deux, le concept de race tel qu'imaginé au 19e sous-entendait des groupes biologiques distincts, des groupes humains biologiques distincts, ça n'est pas vrai. La génétique montre qu'il y a très peu de différences entre des humains. Vous avez très peu de différences entre des humains et vous n'êtes pas beaucoup plus différent si vous êtes un papou de Nouvelle-Guinée ou entre deux bretons en France, quoi.
Même les Tibétains dont vous disiez hier qu'ils avaient une supériorité génétique d'adaptation à l'altitude sont finalement très 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 peu différents,
oui,
des pouillème. Européens qui ne l'ont pas.
C'est ça, c'est un petit pouillème dans le génome. Il y a des petites différences, mais les différences sont très faibles. Donc ça, la génétique, elle l'affirme clairement. C'est pour ça qu'on dit que d'après la génétique, le concept de race n'est pas adéquat pour décrire la diversité, parce qu'il sous-entend des différences fortes, premièrement, et en plus, le mot race, il n'est pas neutre, il a une histoire. Donc le mot race, dès qu'il a été utilisé, derrière, il y avait cette hiérarchisation des groupes humains et aussi ce qu'on appelle l'essentialisation, c'est-à-dire le fait qu'on réduit l'essence d'un individu à des choses immuables. Ce qui était dit au 19e siècle, c'était par exemple que tous les individus noirs étaient paresseux, les jaunes étaient industrieux et les blancs étaient extraordinaires, bien sûr. Et donc cette essentialisation aussi, la génétique la casse, les couleurs de peau n'expliquent que les couleurs de peau. Elles expliquent pas des différences de comportement.
Alors, il faut qu'on parle un peu de ces couleurs de peau, justement. Comment est née la diversité des couleurs de peau? Comment étaient les premiers Européens, par exemple? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Ah, alors, c'est bien ça, parce qu'on a plein de nouveautés là-dessus. Alors, bon, bien sûr, les premiers humains, ils émergent en Afrique. En Afrique, c'est une zone où il y a un fort ensoleillement. Donc, il y a eu, par sélection naturelle, une sélection pour une couleur de peau foncée qui permet de protéger contre certains rayons du soleil. Donc, les premiers sapiens qui sortent d'Afrique sont forcément de couleur de peau foncée. Donc, les premiers Européens qui arrivent sont de couleur de peau foncée.
Avec les yeux bleus, en plus.
Avec les yeux bleus. C'est une mutation qui apparaît il y a à peu près 40 000 ans. Alors bon, on connaît pas encore bien la vitesse à laquelle se répand cette mutation. Mais les premiers Européens, ils sont noirs de couleur de peau avec certainement très rapidement beaucoup avec des yeux bleus.
Jusqu'à il y a à peu près 6000 ans,
oui,
c'est ça ?
Oui, et c'est ça la grande surprise de la génétique. On pensait qu'il y avait un éclaircissement de la peau très rapide, parce que pour s'adapter à des ensoleillements où il y a moins de soleil, eh bien, la sélection naturelle, on sait qu'elle va favoriser des couleurs de peau claires pour mieux assimiler la vitamine D.
C'est-à-dire que les couleurs de peau claires assimilent mieux la vitamine D que les couleurs de peau foncée ?
Tout à fait. Et donc, on s'était dit, ben, dès que les Européens noirs de couleur de peau arrivent en Europe, ils s'éclaircissent.
Parce qu'il vaut mieux, dans la sélection naturelle, avoir une peau claire.
Tout à fait.
Dans ces cas-là, d'accord.
Mais les études d'ADN ancien, donc, où on regarde dans des fossiles, montrent que, en fait, non, les Européens portent une mutation qui code pour une couleur de peau foncée jusqu'à il y a environ 6000 ans. Et en fait, on pense que c'est parce que les premiers Européens, ils avaient suffisamment de vitamine D dans leur alimentation.
Deuxième facteur important après l'ensoleillement, l'alimentation.
L'alimentation. Et du coup, on se dit, ils avaient entre guillemets pas besoin d'être de couleur de peau plus claire. Et donc, on voit dans les restes archéologiques, jusqu'à il y a 6000 ans, les mutations qui codent pour une couleur de peau foncée. Donc, en gros, les Européens, on est pendant une grande partie de notre histoire de couleur de peau foncée, avec des yeux bleus.
Ce qu'on comprend donc encore une fois, c'est à quel point l'environnement peut jouer sur les mutations génétiques. On retrouve cette question-là aussi dans la façon dont la couleur de la peau a évolué.
Oui, c'est l'alimentation qui joue avec l'ensoleillement, les deux jouent. Et donc on commence à s'éclaircir de couleur de peau quand on change d'alimentation suite à ce qu'on appelle le changement néolithique, donc quand on commence à domestiquer les plantes et les animaux, et aussi parce qu'à ce moment-là, il y a des immigrants qui arrivent de l'Anatolie, et eux, ils étaient plus clairs de couleur de peau.
Et donc on s'est mélangé à ce moment-là.
Et donc on s'est mélangé avec eux, et donc on s'est éclairci ensuite au fil du temps.
Est-ce qu'on a d'autres exemples que la couleur de peau, donc de l'apparence, des facteurs qui se voient extérieurement, donc qui déconstruisent le racisme par la génétique?
Alors on a la couleur de peau, mais on a aussi l'intelligence.
Mais vous disiez hier que l'intelligence c'était pas un gène.
Oui, en fait, on se rend compte que l'intelligence, elle a une part de génétique très faible, et puis que, pour l'instant, les études qui sont faites pour comparer les populations en termes d'intelligence, attention, hein, résumées par le QI ou par le nombre d'années d'études,
oui, parce qu'encore faut-il définir l'intelligence.
Hein, oui. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'on voit bien que ce qui fait un humain, c'est pas juste cette intelligence, on va dire, procédurale, c'est aussi l'intelligence sociale, l'intelligence créative, etc., pour lesquelles on ne connaît rien.
Et pour lesquelles la génétique n'a pas encore de preuves.
Oui,
c'est ça ?
Oui,
on n'en aura peut-être jamais.
Oui, je ne pense pas qu'on en trouvera.
Alors, comment on explique, Evelyne Heyer, un, qu'il y ait encore du racisme, et deux, qu'il y ait quand même des différences entre les humains ?
Alors, il y a encore du racisme parce que finalement, on, en tant qu'humain, naturellement, on va créer des catégories face à la diversité du monde qu'on voit. Par exemple, on crée une catégorie table, une catégorie chaise, et bien pareil, on va classer naturellement la diversité humaine. Il y en a plein de manières de classer les individus, mais il se trouve que on est imprégné aussi de la manière de classer dans la société dans laquelle on vit. Donc on peut très facilement classer les gens en fonction de leur couleur de peau et donc faire des catégories basées sur la couleur de peau. Au 18e siècle...
On aurait pu le faire sur la taille.
Oui.
On l'a pas fait sur la taille, on l'a fait sur la couleur de peau.
Ça.
Mais ça, c'est presque une construction sociale.
C'est
comme
une construction
autre.
Sociale, la manière dont on classe les individus. D'ailleurs, au 18e, en France, on classait plutôt protestants catholiques. Donc on voit comment déjà il y a une part de social dans la construction de ces catégories. C'est pour ça que certains mouvements de lutte contre le racisme qui renforcent ces catégorisations, à mon avis, sont pas forcément dans la bonne manière de lutter contre le racisme. Mais ça, c'est mon point de vue. Et donc c'est pour ça qu'en fait ça continue d'exister tant qu'on aura dans l'environnement social ce type de catégorisation, on va continuer à travailler autour de ces catégories. Et il se trouve que très vite, on tombe des catégories à des préjugés ou à des stéréotypes. Et après, on peut déboucher jusqu'à du racisme, où là, on enferme les catégories dans des choses très figées. Les Roms seront toujours des voleurs, quoi. Ça, c'est du racisme.
Oui, parce que vous dites qu'il y a trois ressorts du racisme. On l'a entendu là dans ce que vous venez de dire. Il y a l'essentialisation, la hiérarchisation et la catégorisation. Il faut ces trois choses Pour faire du racisme ?
Il faut les trois ingrédients. Et c'est pour ça que c'est important de présenter ça, parce que finalement, en tant qu'individu ou en tant que société, on peut interroger chacune de ces composantes. Quelle catégorisation on utilise ? Dans quelle mesure on essentialise ? Et est-ce qu'on hiérarchise ? Et chaque citoyen peut s'interroger autour de ces trois composantes, comment il voit la diversité humaine.
Est-ce que, Evelyne Ayer, faire état de différence, c'est déjà faire preuve de racisme ?
Non. Non, moi, y a de la diversité humaine, il y a des différences. C'est plutôt comment on réagit face à cette différence qui est du racisme. Mais faire état d'une différence, non, il y a des différences. Heureusement, on n'est pas tous des clones.
Hein. Oui, mais certains disent, c'est ce qu'on entend, hein, on entend dire, s'il y a des différences de couleur de peau, on voit pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres différences.
Ah ben non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir quelles différences et en quoi les différences entraînent d'autres différences. Pardon, c'est pas clair, mais c'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau que ça va entraîner une différence sur d'autres choses qui sont importantes pour l'être humain, sur la gentillesse, sur l'empathie, sur des choses comme ça.
Les Noirs ont le rythme dans la peau, les Africains courent plus vite que les Européens.
Oui.
Des choses comme ça, voilà.
C'est complètement faux. Y avait même des idées, vous vous souvenez, je pense que c'est dans les années 50-60, les populations de couleur foncée ne pouvaient pas réussir, je dirais, en natation parce qu'ils coulaient. Mmh. Non, mais vous vous rendez compte, quoi.
Alors, quand c'est n'importe quoi. Pour certains, dire c'est faux, ça suffit pas. Donc, en quoi c'est faux, ça ?
Eh ben, c'est faux.
Parce que c'est de l'essentialisation, de la catégorisation, mais ça n'induit pas nécessairement une hiérarchisation. On n'est pas tout de suite dans le racisme, si ?
Alors, dans le racisme, il y a quand même l'idée de hiérarchisation. Mais je trouve que si on mélange catégorisation et essentialisation, aussi, on n'est pas loin, en général, de tomber dans le racisme. Et par exemple, pour les sports, on sait bien que les compétitions, enfin, le fait d'avoir des champions, c'est complètement construit socialement. Ça a été, par exemple, remarquablement étudié en Éthiopie, les gens des hauts plateaux, comment ils ont construit socialement le mythe du coureur de fond et comment ils ont mis en place tout un système pour sélectionner des champions.
C'est là qu'on voit que, on martèle que les facteurs biologiques ne déterminent pas les comportements. C'est même l'inverse qui se produit la plupart du temps.
Tout à fait. Bon, maintenant, il y a quand même une part du biologique qui détermine des comportements. Vous pouvez pas être champion de basket si vous mesurez pas au moins 1m90 et votre
Sauf
taille.
Sauf si on décide que le panier de basket baisse.
Oui, et plus bas. C'est vrai. C'est ça. Mais donc, on voit bien qu'il y a quand même forcément, on n'est pas tous égaux dans nos capacités physiques.
Mais parfois, souvent, l'environnement, en jouant sur nos comportement induit ensuite, finit par influer sur le génétique, quoi.
Oui, c'est ça. Ça marche plutôt dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a une dimension, vous disiez tout à l'heure, il y a des nouveautés en termes scientifiques, on vient d'en parler avec les couleurs de peau, notamment, hein, avec la découverte que les premiers Européens avaient tous la peau foncée, pour ne pas dire brune, pour ne pas dire noire, Evelyne Ayer. Vous disiez donc il y a des nouveautés en termes scientifiques, mais vous aviez pensé cette exposition, nous et les autres, des préjugés au racisme, non pas en termes militants, mais en termes scientifiques. Qu'est-ce que ce serait, ou qu'est-ce que ça aurait été, et qu'est-ce que serait votre travail si c'était militant ? Quelle différence, quelle part faites-vous entre le scientifique et le militantisme ?
Eh ben, dans le militant, j'aurais été plus sur la dénonciation du racisme. C'est-à-dire d'être plus dans un message, les impacts forts que ça peut avoir, quoi qu'on en parle dans l'exposition, et comme quoi finalement il faut vraiment sortir de ce racisme. Il faut finalement l'exposition, elle amène quand même à ça, parce qu'en expliquant ce que c'est, on espère déconstruire le racisme. Mais par exemple, on avait hésité à un moment donné à faire toute une partie de l'exposition sur les luttes contre le racisme et donner place à toutes les associations qui luttaient contre le racisme. Et finalement, on a décidé que non, on préférait rester sur une présentation des données. Il y a des données remarquables, par exemple des données démographiques en France. Il y a l'enquête Trajectoire et Origine qui montre que sur les enfants d'immigrants, les deux tiers se marient à l'extérieur de leur groupe d'origine. Donc qu'on est dans une société où finalement on a une mixité en fonction des pays d'origine, qui est remarquable. Deux tiers des enfants d'immigrés, pour vous donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, c'est seulement environ 15% des Afro-Américains qui se marient à l'extérieur de leur groupe d'origine. Donc, je pense que c'était important de rappeler ça, mais de rappeler qu'il existe quand même des discriminations.
Et alors, qu'est-ce qu'on montre quand on construit une exposition comme ça, qui cherche à comprendre comment s'élabore l'altérité de l'identité, la construction scientifique de la notion de race, le racisme aujourd'hui, qui étaient les trois temps forts, je crois, de l'exposition. Qu'est-ce qu'on montre, là encore?
Alors, la première partie, on montre tout ce qu'on connaît des ressorts de la psychologie sociale, comment ça marche. C'est-à-dire comment, effectivement, sous forme de petits jeux, comment inévitablement on va se mettre à catégoriser et comment souvent on a ce qu'on appelle des biais implicites, c'est-à-dire qu'on va très vite déboucher sur des préjugés et que c'est important de les connaître. Donc là, c'était plutôt des dispositifs ludiques pour que le visiteur s'approprie les concepts de catégorisation, essentialisation et hiérarchisation. La deuxième partie que j'ai faite avec ma collègue historienne Carole Reynaud-Paligaud, c'est vraiment sur comment ces trois articulations se construisent à certains moments dans l'histoire des sociétés. Donc en prenant l'exemple par exemple de la France coloniale, l'apartheid aux États-Unis, le Rwanda, et quels sont les ressorts et bien sûr le moment de la Shoah. Et la dernière partie, elle était plus contemporaine. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme information, avec un espèce des petits films de génétique qui expliquent la diversité génétique, d'où elle vient, etc. Et alors, on s'est amusé comme des folles. On a fait un grand mur de statistiques.
Vous aimez bien les murs.
Ah oui.
Mur de langue, mur de statistiques.
Sur toutes les données qu'on avait pu ramasser, par exemple, donc cette enquête trajectoire et origine, le rapport annuel de la CNCDH, commission nationale consultative des droits de l'homme, chaque année, qui fait un espèce de baromètre sur le racisme, des débats entre des chercheurs, comment les médias produisent les catégorisations et la hiérarchisation. Et c'était drôle parce que ce mur des stats, c'est vrai que les muséographes avec lesquels on avait travaillé, ils disaient oui, il y a des murs de stats. Et en fait, on s'est rendu compte que les visiteurs adoraient parce qu'il y avait plein de chiffres intéressants qui étaient faciles à lire. On les avait retravaillés et ça suscitait beaucoup de discussions entre les visiteurs. Donc voilà, c'était un peu ça le déroulé. Et l'expo, elle a tourné dans le monde entier, elle continue à tourner. Là, elle est à Bordeaux, je pense qu'elle y est encore. Elle a été à La Réunion, au Canada, en Suisse. Il y a des bouts qui sont allés en Suède, en Allemagne, etc. quoi.
Oui, et puis sur le site internet du Musée de l'Homme, l'exposition est quand même bien encore visible, lisible et très bien présentée. Est-ce que pour conclure cette émission, Evelyne Heyer, vous diriez malgré tout que à cheval entre le discours scientifique qui est le vôtre et le discours militant, il y a la démarche ou la dimension politique. Est-ce que c'est quand même une dimension politique de votre travail, ce travail de déconstruction du racisme qui est le vôtre ?
Ah, tout à fait. C'est de la politique au sens noble de la politique. C'est-à-dire que, et c'est ce qui m'enthousiasme, c'est de travailler pour le vivre ensemble. C'est vraiment l'idée, de cette idée d'humanité, à la fois l'unicité et la diversité de l'humanité, et finalement les différences et la diversité, comment on s'en empare.
Alors on a réfléchi à la diversité et aux différences aujourd'hui, reste à voir comment on explique cette proximité malgré tout, puisque nous sommes tous et toutes cousin à 99,9%, si je ne m'abuse. Bah, c'est ce qu'on verra demain, comment on l'explique, cette proximité. Donc rendez-vous demain pour parler des migrations.
Bonsoir.
À demain. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Florent Layani, réalisation Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application de Radio France.